Exact. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de politique. Et puis...
Soit même un discours un peu sérieux.
Il est grand, il est beau, il est fort. Il est roi et il le sait.
La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur le plateau de...
BTFM
sur le 91.2.
Sonolab. Le Sonolab. L'atelier des sons. Des projets sonores et radiophoniques réalisés avec des écoles, collèges, lycées, des établissements médicaux, sociaux, culturels, de loisirs de 6 ans à 166 ans. Le mercredi et le dimanche à 11h sur Jet FM 91.2.
Nous sommes bien sur le plateau de Jet FM sur la fréquence 91.2 dans le but de vous présenter un projet de la classe de 4e B du collège Guistot sur les risques auditifs. Pour mener à bien ce projet, nous avons pu bénéficier de plusieurs interventions en classe avec Laure Rodier et Madame Mersan, notre professeure de français, qui nous ont fait découvrir cette radio associative et les outils afin de réaliser notre propre émission de A à Z. Nous allons commencer sans trop tarder cette première partie dédiée à un micro-trottoir sur les risques auditifs, mais aussi à une rubrique scientifique sur l'appareil auditif décomposé en 3 parties. Et pour conclure avec cette première partie, nous avons interviewé Olivier Magret. Après la pause musicale, nous allons reprendre avec un second micro-trottoir suivi d'une chronique effectuée en classe avec la tête acoustique. Enfin, l'ASMR vous sera présenté avant de terminer avec 2 portraits, Mathilde, élève à Guistot, et Mathieu Hag. Je laisse maintenant la parole à Ismaël et Gabriel.
Nous avons interrogé sous forme de micro-trottoir de nombreux Nantaises et Nantaises sur les risques auditifs. Voici leur réponse.
D'après vous, qu'est-ce qu'un risque auditif ?
Un risque auditif, c'est tout et n'importe quoi qui peut abîmer nos oreilles.
Le fait d'utiliser par exemple des écouteurs trop forts.
Un risque auditif, c'est un risque qui peut amener à perdre l'ouïe, quoi.
C'est quand on a un problème auditif, hein, quelconque, comme acouphène, ou qu'on a du mal à entendre, qu'on a mal aux oreilles, tout ça.
Toute nuisance sonore qui dépasse les 80 décibels.
Le téléphone, de la musique trop forte.
Qu'est-ce qu'un risque auditif ? Ça peut être dû à la pollution auditive, trop de bruit dans une ville.
Un risque auditif, c'est une très bonne question. Pour moi, c'est le fait, par exemple, d'écouter la musique trop fort ou d'avoir trop de bruit autour de soi. C'est un risque parce que justement, on peut abîmer son tympan.
C'est le risque qu'on a quand on écoute par exemple de la musique trop forte, d'avoir une baisse de l'audition plus tard.
D'après vous, quelles sont les causes des risques auditifs ?
Et les normes appliquées sur les bâtiments de construction ne sont pas forcément respectées des fois ?
Ça peut être des causes naturelles, je pense. Après, des causes avec l'environnement ambiant, les bruits, tout ça, ou dans les concerts ou des trucs comme ça.
Les marteaux-piqueurs en pleine rue.
Les avions au-dessus d'une ville, les trains, les véhicules, enfin...
Par exemple, lorsque l'on met ses écouteurs et lorsque l'on écoute la musique trop fort, lorsque l'on passe à côté d'une zone de chantier, voilà.
Et comment est-ce qu'on pourrait éviter ces risques ?
Comment on pourrait éviter ces risques ? Déjà, mieux appréhender les problèmes sonores quand on construit... des bâtiments. Après, il faut trouver des moyens pour insonoriser. Je sais pas, les ruelles. Je sais pas. J'avais vu qu'il y avait des, dans d'autres pays, ils faisaient des barrières végétales sur les murs pour amortir les bruits.
Utiliser des protections individuelles, du genre boule-caisse par exemple, ou des casques protecteurs.
Bah, la prévention avec la sensibilisation sur ce type de risque.
Mettre davantage à disposition des bouchons de protection auditive.
En ne s'exposant pas, évidemment.
Alors là, ça serait compliqué de supprimer des voitures en ville. Les aéroports, il faudrait les mettre un petit peu plus en dehors des villes, peut-être.
Le port de casques adaptés, qui mettent un volume maximum ou un espèce de plafond pour diminuer le volume, et juste en limitant aussi le port des écouteurs.
Et bah, pour les concerts, donc c'est les bouchons d'oreilles. Après, je sais que chez les personnes qui travaillent sur les chantiers et tout ça, il y a des casques à porter pour protéger chaque individu.
Faire les moins de bruit possible.
Merci.
Merci de votre écoute. Vous savez désormais l'avis global des Nantais sur le sujet des risques auditifs. Et maintenant, la chronique scientifique.
Jet FM.
La radio.
91.
La fréquence.
Point 2.
Nous allons vous parler du fonctionnement de l'appareil auditif. Tout d'abord, commençons par une définition de l'oreille. L'oreille est un convertisseur qui transforme un signal sonore en un message nerveux qui sera compris par le cerveau. Nous allons maintenant observer plus précisément le parcours de ce signal sonore à travers notre oreille. Le signal sonore est d'abord capté dans le pavillon, puis emmené jusqu'au tympan, qui est une membrane très fine, via le conduit auditif externe. De l'autre côté du tympan, dans une cavité pleine d'air, se trouvent trois petits osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier.
Ils vont tous les trois amplifier la vibration avant de la transmettre à l'oreille interne. Ensuite, la cochlée, qui est aussi appelée limaçon à cause de sa forme de coquille d'escargot, prend le relais. Lorsque les vibrations lui sont transmises, les cils bougent et activent les cellules. Celles-ci se connectent alors à des neurones situés eux aussi dans l'oreille interne. Le signal sonore devient alors un flux nerveux. Il parcourt les longues extrémités des neurones, rassemblés pour former le nerf auditif et atteindre le cerveau. Ici se termine le parcours du signal sonore. Nous vous laissons maintenant découvrir la chronique suivante, qui va vous parler des causes de la perte auditive. On remplace un élève qui est aujourd'hui malheureusement absent. Environ 16% de la population mondiale serait atteinte de perte auditive. Cela représente près d'un milliard de personnes. La perte d'audition se caractérise par des difficultés croissantes à entendre, interpréter et comprendre les sons qui nous entourent. Une perte auditive peut rapidement placer la personne en situation de handicap. Avec l'âge, le système auditif se dégrade et des problèmes d'audition peuvent naître. Ce type de surdité, appelée presbyacousie, est dite naturelle. Elle touche majoritairement les quinquagénaires. Une perte d'audition peut aussi survenir à la suite d'un traumatisme sonore, une exposition ponctuelle ou fréquente à des bruits d'une intensité excessive. C'est le cas d'environ un adolescent sur cinq. Il existe deux types de traumatismes auditifs. Les traumatismes aigus, provoqués par une exposition brève comme une détonation ou un concert, et les traumatismes chroniques, provoqués par une exposition répétée au bruit comme une écoute répétée à la musique au casque, bruit lié au travail. Ces phénomènes peuvent également s'accompagner de l'apparition d'acouphènes ou d'hyperacousie. Les acouphènes sont des bruits parasites, entendus par un individu en l'absence de source sonore extérieure. Moins connue, l'hyperacousie peut être définie comme une perception augmentée des sons. Les sons deviennent gênants, insupportables, voire douloureux. Les caractéristiques varient en fonction des personnes. Pour que vous puissiez en apprendre plus, je laisse la parole à Antaï, Tom et Luca qui vont vous parler des risques auditifs dans le monde professionnel.
Je vous écoute. Vous écoutez quoi ?
Jet FM 91.2.
Merci à Rose de nous avoir donné la parole. On a décidé de parler du danger des risques auditifs dans certains métiers. Aujourd'hui, le bruit c'est un problème sérieux et pas mal présent sur pas mal de lieux de travail. Bah, pour commencer, le son, ça se mesure en décibels. De 80 à 85 décibels en 8 heures, ça suffit à causer des dommages auditifs. Du coup, c'est quand même ouf. Après, imaginez passer la journée au travail où on fréquente les 130 décibels. Un homme qui a passé 10 ans à travailler dans un environnement bruyant, il est 4 fois plus sensible qu'un homme qui travaille dans un lieu calme. Là, vous comprenez le danger auquel sont confrontés certains travailleurs.
Prenons par exemple le personnel d'aéroport. Ils passent leur journée à côtoyer le vacarme incessant des monstrueux réacteurs.
Ces derniers s'élèvent jusqu'à 140 décibels. Ceci est complété par la pression des moteurs. Ce genre de métier dégrade inexorablement l'ouïe au fil du temps.
Alors là, on va vous faire un autre exemple. Sur les chantiers, il y a plein de bruits qui se mêlent, les marteaux-piqueurs, les tronçonneuses, etc. Ce qui aboutit à un bruit incessant. Ces travaux sont très dangereux pour l'ouïe des ouvriers car il n'y a pas seulement le bruit de l'instrument utilisé, mais il y a aussi le bruit de fond. Bien sûr, il y a des casques pour se protéger, mais ça évite pas le danger, ça le diminue juste.
Notre exemple, les agriculteurs. Les agriculteurs sont aussi exposés au risque auditif à cause des machines agricoles comme les moissonneuses, les affûteuses, les tracteurs, les compresseurs. Le bruit produit par ces engins dépasse largement la limite de décibels tolérée par l'organisme. Des études montrent même qu'à leur début, les agriculteurs souffrent de bourdonnement après une journée de travail. Il existe de plus en plus de protections. Mais le meilleur moyen est toujours de fermer la porte de la cabine, ce qui réduit la nuisance sonore de 20 décibels.
Alors maintenant, après cette chronique, du coup, on va vous donner des conseils et des préventions. Alors si dans votre travail, ça présente des risques pour votre audition, on va vous donner quelques conseils. Alors premier conseil, s'éloigner de la source de bruit si possible. Deuxième conseil, faire régulièrement des tests pour prévenir à tout défaut d'ouïe. On peut aussi faire des pauses régulières en lieu calme ou encore porter un casque ou des bouchons anti-bruit. Alors maintenant, on va retourner à la chronique scientifique avec Zélie et Rose.
Jet FM,
la radio,
91,
la fréquence,
point 2.
Du coup, on vous présente les conséquences. La perte auditive peut placer la personne dans une situation de handicap à plusieurs niveaux, physique, mental, social. Le premier risque pour une personne malentendante est de progressivement s'écarter de la vie sociale et d'éviter au maximum les interactions avec son entourage. La perte auditive peut aussi engendrer d'autres répercussions physiques, fatigue, maux de tête, acouphènes, stress, hypertension, perte d'équilibre, psychologique, dépression, difficulté à se concentrer, sentiment de honte, perte de confiance en soi. Chez les jeunes, les conséquences sont similaires à l'exception de l'isolement. On poursuit maintenant avec Jean, Léopold et Maël.
Nous allons accueillir Olivier Magret à qui nous allons poser quelques questions.
Alors, je m'appelle Olivier Magret, je suis enseignant au lycée, en classe de prépa, en classe de ciné-sup, et je m'occupe d'étudiants qui ont déjà le bac et qui préparent des grandes écoles pour faire du cinéma. Donc il y a deux grandes écoles qui préparent principalement ces métiers, la FEMIS, peut-être certains d'entre vous connaissent, ou le nom peut-être, et une autre école qui est une école plus scientifique qui s'appelle Louis Lumière. Et ces deux écoles-là préparent à tout un tas de métiers autour du son et de l'image, mais moi je m'occupe un petit peu plus du son dans cette partie-là.
À quoi sert un professeur de physique dans ce genre d'études ?
En fait, tous les métiers de l'image et du son ont une base de sciences physiques que vous allez commencer, vous, à étudier, que peut-être vous allez aimer à apprendre au fur et à mesure. Quand on fait de l'image, on utilise des caméras. Il y a des objectifs d'appareils photo, de caméras, et ça, c'est une matière de la physique qu'on appelle l'optique. Et quand on fait du son, c'est une matière de la physique qui s'appelle l'acoustique. Tous les appareils fonctionnent avec de l'électricité. Et donc ça appelle une troisième matière qui s'appelle l'électricité. Donc il y a des tas de choses qu'on ne fait pas dans les métiers de l'image et du son du domaine de la physique, mais on fait au moins ces trois domaines-là, l'optique, l'acoustique et l'électricité.
Pourquoi avez-vous décidé de vous tourner vers ce métier de professeur de physique spécialisé dans le son ?
Alors au départ, je n'étais pas spécialisé dans le son. Au départ, je suis un prof de physique comme tous les autres. Donc, quand j'étais au lycée, j'étais plutôt à l'aise dans les matières scientifiques, maths, physique. Et au départ, je voulais pas faire prof. En fait, je voulais faire ingénieur. J'avais plutôt envie d'être dans l'action, dans une entreprise, voilà. Et puis, j'ai fait une classe prépa scientifique, ce qu'on appelle maths sup, maths spé. Et puis, j'ai eu un concours qui s'appelle l'école normale supérieure et je suis rentré là-bas. Donc c'est comme ça que j'ai atterri dans le milieu des enseignants de physique. Mais au départ, ce n'était pas mon projet. Comme quoi, on peut changer en cours de route.
Savez-vous comment prévenir les risques auditifs et que faire quand l'on a une perte auditive ?
Alors pour prévenir les risques auditifs, il est clair qu'il ne faut pas s'exposer à des sons vraiment très forts, ou alors il faut ne pas s'exposer à des sons longtemps. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a aussi une espèce de charge sur la durée qui est dangereuse. On peut avoir des sons qu'on entend bien à 80 décibels, 85 décibels, mais si on entend ça pendant toute une journée, dans un environnement bruyant, à la fin, on va avoir de la fatigue. Et puis, sur des longues périodes, on peut avoir des chutes d'audition assez importantes. On peut avoir des chutes d'audition aussi lorsqu'on est exposé à des sons très forts qui dépassent 110, 100, et puis 120, on a 120 décibels, on a carrément mal aux oreilles, mais mal physiquement. Pour prévenir ça, évidemment, il faut ne pas s'exposer. Donc, il ne faut pas aller dans les concerts tout près des enceintes. Il faut faire des pas en arrière. Parce qu'on sait aussi que le son diminue lorsqu'on se recule de la source. Il ne faut pas écouter des sons trop forts avec les casques et avec les oreillettes. Vous avez maintenant sur vos téléphones des petits écouteurs intra-auriculaires qui ont des sources en fait, que vous mettez directement dans votre oreille. Ça, c'est dangereux parce qu'en vérité, vous ne mettez aucune distance entre l'oreille et la source. Et donc il faut baisser les volumes et puis ne pas préférer un casque si vous avez des petites oreillettes, ça c'est pas très bon, vaut mieux un casque. Et puis ne pas aller fréquemment au concert ou en répétition si vous avez des groupes de musique amplifiés avec des guitares, des batteries. Là il faut se protéger avec des bouchons d'oreilles ou des casques anti-bruit parce que, comme je le disais tout à l'heure, la cochlée elle se régénère pas. Donc une fois qu'elle est abîmée, malheureusement ça sera pour le reste de votre vie.
Votre métier de professeur de physique spécialisé dans le son influe-t-il sur votre musique en tant que musicien ?
Non, j'ai pas l'impression que mon métier de prof de physique a influencé ma manière de faire de la musique. Est-ce que ça a influencé ma manière d'en écouter ? Je dirais oui, sachant ce que je vous ai dit juste avant. C'est-à-dire maintenant, moi, je fais attention à mes oreilles. Et il est un temps où je ne faisais pas attention quand j'étais musicien de rock. Dans mes locaux de répétition, quand j'étais jeune, j'ai pas trop fait attention. Les guitares, les basses, les batteries, on n'a pas toujours mis des protections. Et il n'est pas impossible que quand je serai proche de la retraite, mes facultés auditives soient affecté par cette jeunesse turbulente dans le milieu du rock'n'roll, on va dire. Peut-être que mes élèves, je les entendrai moins à la fin de ma carrière. Pour l'instant, ça va.
Bon, merci.
Vous êtes bien sur Jet FM 91.2.
Et maintenant, une pause musicale avec une musique de Caballero et Jean Jass.
Hey, 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 Amiro, je suis vrai, Amiro, tu es faux. Rap Anunnaki, à fond dans l'UFO. Du swag et du bagou, je fais gagner, c'est pas cool. Des chaînes et des bagouzes, des filis, des bagouzes. Je les rends encore plus fous que les cailloux de cocaïne cuits qu'ils chopent sur le corner. C'est vrai qu'il fait chaud, mais là qui fait le champ cadeau, M, suce le corner. Faudrait que j'arrête de parler de ma quéquette. Avec le mob, on est prêt pour la guéguerre. On est squat, on est gang. Ils me haïssent comme ce maudit nazi. Je veux que tu croises ma petite gueule d'autiste assis dans une Audi A6. Qu'est-ce que charbon non-stop, nique un temps partiel. Bureau au dernier étage dans le gratte-ciel. Ça va, quel hein.
Tout le monde veut la carrière des autres. Je sais pourquoi les gens me regardent avec ces yeux-là. Aucun retour en arrière, désolé. À 200 km vers le futur, j'ai les yeux fermés. Les yeux fermés, les yeux fermés. J'ai les yeux fermés, les yeux fermés. Les yeux fermés, les yeux fermés. J'ai les yeux fermés, les yeux fermés.
J'ai dit ferme-la, ferme-la. Danger, j'arrive en forme, formula. Ouzi sous la veste, on veut faire des sous à l'aise. Être un vampire, être riche comme Luis Suarez. Et piqûre rien, ni poudre ni piqûre rien. Je veux l'Amérique comme Joe Dassin. Je parle pas du père de Jordan 5. Pour mon corps, j'ai mélangé quatre genres de couches. C'est comme les femmes et quand je vous, c'est dangereux. Soukoupe, hachiche, couscous, tagine. Vivre avec le jazz, c'est pas toujours facile.
J'ai dit ferme-la à boule les Nike le bleu. Sinon ça va péter comme dans un film de Michael Bay.
Vous êtes bien sur Jet FM, l'émission du Sonolab. Alors moi c'est Raphaël et j'ai travaillé avec mon binôme Charles. Nous avons fait un micro-trottoir dans le but d'avoir l'avis des gens sur les risques auditifs dans les concerts. Donc nous sommes allés le 26 avril au Stéréolux pour voir un concert des rappeurs Caballero et Jean Jass. Et je vous laisse avec le micro-trottoir.
Ça va
et toi?
T'as bien aimé le concert?
C'était super.
C'était assez sympa, je suis venu un peu dans le doute de ce que j'allais voir et franchement j'ai bien apprécié.
Ah, c'était super.
Bah, franchement c'était super cool, il y avait une bonne atmosphère, bonne énergie.
Ouais carrément, c'était une grosse ambiance comme attendu quoi.
Bah ouais franchement c'était vachement sympa.
Je l'ai trouvé super bien, c'était mon premier concert et j'ai vraiment kiffé. Ouais. Et le volume sonore il était comment pour toi?
C'était un peu fort mais ça va.
C'était totalement acceptable. Franchement, vraiment, pour une fois, c'était complètement acceptable.
Le volume sonore était approprié. La salle est faite pour ça, en fait.
La salle Stéréolux, franchement, c'est trop bien, quoi. J'ai été au Zénith plusieurs fois et le Stéréolux, c'est incomparable. C'est trop bien.
Ça m'a fait un peu de mal au début et après, ouais, je me suis habitué. Mais bon, je pense que c'était un peu fort, mais ça allait.
T'as porté des boules de caisse ou pas?
Non.
J'ai porté une fois des boules de caisse à un concert. C'était pour un concert où il y avait vraiment trop de basses et c'était pas le cas ce soir.
Ben non, mais je sens pas la sensation.
Ben en fait, je voulais en prendre, mais j'ai totalement oublié.
Quand je joue dans des petites salles, si tu veux, où le son est vraiment fort, je porte des boules de caisse, quoi. Là, Stéréolux, je pense que c'est bien géré. Enfin, j'en sais rien, au final.
Et hors concert, t'écoutes de la musique, souvent?
Ouais, vachement, ouais. Bah, j'écoute avec mes écouteurs, souvent.
Oui, tout le temps. J'ai un casque, un très bon casque. J'écoute tout le temps de la musique.
Ouais, ouais, énormément, ouais. Si j'ai envie de me faire kiffer, j'écoute un peu fort.
Tu vois, sur iPhone, tu sais, il y a des petites barres qui te disent quand c'est plus fort et tout. Et souvent, bah, je les dépasse parce que je trouve que le son est meilleur, mais...
Ouais, j'écoute sur mon enceinte, sur mes écouteurs, ouais. Je pense que je le mets trop fort, mais moi, j'aime bien le son fort.
Et les risques auditifs, les acouphènes et tout, ça t'emporte?
Ça quoi?
Ça t'emporte?
Bah ouais, un peu, mais voilà, quoi.
Vous avez écouté le micro-trottoir que nous avons fait lors du concert de Caballero et Jean Jass le 26 avril au Stéréolux. On en a conclu que les gens interviewés aiment écouter le son fort sans protection, comme des bouchons d'oreilles. Je laisse la parole à Marie et Noé sur leur chronique sur la tête acoustique.
Je vous écoute. Vous écoutez quoi ?
Jet FM 91.2.
Sous quelle forme peut bien se composer une tête acoustique ?
La tête acoustique est composée d'une tête en résine ainsi que deux oreilles en silicone. À l'intérieur de ces deux oreilles se trouvent des micros pour capter le son. Comment utiliser la tête acoustique?
Premièrement, on peut laisser les oreilles à l'air libre pour mesurer le bruit ambiant. Ou alors, placer les écouteurs en les insérant dans les oreilles artificielles, comme vous le feriez pour vous.
Secondement, vous pouvez observer l'évolution de l'intensité sonore et de ses répercussions sur l'audition grâce au voyant lumineux.
Si le voyant est vert, c'est que le son ne dépasse pas les 80 décibels et qu'il est inoffensif pour vos oreilles.
Si par contre le voyant devient orange, c'est que le son est entre 80 et 100 décibels. Il faut alors être prudent.
Par contre, si le voyant devient rouge, c'est que le son est au-dessus de 100 décibels et qu'il y a donc un réel danger pour votre audition. À quoi peut bien-elle servir ?
Cette tête permet aux enseignants des classes dans les collèges de sensibiliser les jeunes et de faire passer, grâce à une approche pédagogique, de gestes simples. Régler le volume à la moitié du maximum du baladeur.
Limiter la durée d'écoute avec un casque et des écouteurs. Plus de 80 décibels durant 8 heures peuvent déjà créer des lésions irréversibles.
Donc il ne vaut mieux pas s'endormir avec son baladeur sur les oreilles. Lors de l'expérience avec la tête acoustique, on a pu mettre de la musique sur des casques ou des écouteurs pour les installer sur la tête et donc voir si cela pouvait avoir des répercussions dangereuses sur notre audition.
Nous avons pu remarquer que la plupart des cobayes élèves ont pour habitude d'écouter de la musique à un niveau sonore raisonnable, c'est-à-dire en dessous de 80 décibels.
Nous laissons donc maintenant la parole à Éléonore et Juliette.
Nous avons interrogé Olivier Joly, qui est régisseur son et qui est professeur.
Dans la section DMA du lycée Gabriel Guissot, nous lui avons posé quelques questions sur son métier.
Voici l'interview. En quoi consiste le métier d'ingénieur son ?
Ingénieur du son, ça va dépendre en fin de compte dans quel domaine du son tu te situes. En tout cas, moi, pour ma part, il s'agit plus de régisseur son, car on est dans le milieu du spectacle vivant.
Mais qu'est-ce que le spectacle vivant ?
Alors oui, pour préciser, le spectacle vivant, ça peut intégrer le théâtre, la danse, et les concerts. C'est en fin de compte c'est les spectacles dans lesquels il va y avoir des êtres vivants. Ça paraît bête comme ça, mais ça veut dire des comédiens, des acteurs, des danseurs, des musiciens. Voilà, le spectacle est produit par des gens vivants et en direct globalement. Voilà, le cinéma on va pas parler de spectacle vivant pour le cinéma, à moins qu'on mélange les deux, ce qui peut arriver, le ciné-concert ou des choses comme ça, où on a carrément un orchestre qui joue en même temps que pendant que le film est diffusé. Et là, on peut considérer que c'est un spectacle vivant. Enfin, pour ma part, en tout cas.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
J'ai fait de la musique, pas mal, et j'ai découvert qu'on pouvait pratiquer ce métier. En découvrant ça, je me suis dit, waouh, ça c'est super.
Est-ce que les études d'ingénieur son sont difficiles ?
Je dirais pas que c'est difficile, je dirais que c'est facile si on aime ce qu'on fait. Comme dans beaucoup d'apprentissages d'ailleurs.
Vous protégez-vous dans votre métier et comment ?
Alors oui, on est exposé forcément dans nos métiers, comme dans plein d'endroits, à des niveaux sonores qui peuvent être élevés. Les premières protections qui sont les bouchons, par exemple, ou des moulages, j'en ai souvent sur moi, quoi qu'il arrive, des bouchons, ou des casques, même quand je fais autre chose que de la musique. Et puis la deuxième protection, puisque nous, on est à proprement parler aux manettes, c'est d'apprendre à gérer les niveaux sonores le mieux possible avec les artistes et avec les gens qu'on forme aussi.
Vous avez ramené une machine. À quoi servent les chiffres qui sont dessus ?
Alors, cette machine est un dB-mètre. C'est un petit appareil qui sert à mesurer les niveaux sonores, acoustiques donc, dans un lieu. Donc, ça permet d'avoir une idée des niveaux, jusqu'où on peut aller, où est-ce qu'on se situe, etc. Et de savoir si on est dans la loi ou hors la loi, puisqu'il y a une législation par rapport au niveau sonore dans les lieux publics.
Quelle est donc cette loi ?
Alors, la loi qui a changé il n'y a pas si longtemps que ça, stipule que dans tout lieu public, le spectateur ne peut pas être soumis à un niveau sonore pendant plus de 15 minutes au-delà de 102 dB A. 102 dB SPL, c'est-à-dire acoustique.
Qu'est-ce que ça fait quand on dépasse le niveau que vous venez de citer ?
Alors, ça peut être très dommageable pour le système auditif. Il y a une notion de niveau, il y a une notion de fréquence, c'est un petit peu technique, puis il y a une notion de temps aussi. Donc, plus on va être soumis à de forts niveaux pendant un laps de temps long, et plus on a de gros risques au niveau de l'audition. On va se retrouver notamment avec des acouphènes, ça c'est les premiers symptômes. Voilà. Aussi, vous pouvez aussi souffrir d'hyperacousie, c'est-à-dire que du coup, vous devenez super sensible à plein de petits bruits métalliques, etc. Et ça vous fait super mal aux oreilles. Ça c'est valable, moi je vous parle pour les niveaux sonores dans les salles de spectacle, mais c'est aussi valable pour les casques, surtout les casques intra-auriculaires, c'est-à-dire les oreillettes que vous portez, que tout le monde a, que soit enfant ou adulte, hein, tout le monde a ça, parce que là, vous êtes en direct sur le tympan.
La musique endommage-t-il l'ouïe ?
La musique par elle-même n'endommage pas l'ouïe. C'est le niveau sonore qui va endommager l'ouïe. La musique, ça reste quelque chose d'agréable. Voilà. Ça dépend du type de qualité de fichier que vous allez écouter aussi. Souvent, on parle de baladeur MP3. Il faut savoir que ce type de fichier, c'est un fichier audio, n'aide pas, voire même est assez destructif pour l'oreille. Pour gagner de la place, qu'est-ce qu'on fait ? On compresse. Comme du papier, là, qu'on prend, on compresse. La musique compressée a tendance à beaucoup plus abîmer l'oreille que la musique non compressée. Voilà. Donc, il faut faire très attention, parce que là, on mélange deux choses, et le casque qui vient directement sur le tympan, mais en plus, l'utilisation de fichiers qui, eux-mêmes, par leur nature, vont être agressifs sur l'oreille. Donc, c'est pas la musique, mais c'est le niveau et la qualité sonore qui vont être destructifs pour l'oreille.
On remercie Olivier Joly d'avoir répondu à notre question.
Et on a pu remarquer, grâce à la tête acoustique des BMET, que même dans notre classe, quand on est en train de travailler, le niveau de la classe est assez élevé. Maintenant, nous allons laisser la parole à Noah, Capucine et Elliot
pour la minute ASMR.
Nous nous sommes intéressés à l'ASMR, une pratique assez étrange, et nous vous proposons de la découvrir au travers de notre chronique ASMR. Bonne écoute.
L'ASMR signifie
Autonomous Sensory Meridian Response,
soit en français réponse autonome sensorielle culminante. Cela consiste à faire des bruits relaxants
dans un environnement silencieux. Cela agit comme une séance de yoga pour oreilles.
Environ 16% de la population mondiale est touchée par des problèmes auditifs plus ou moins graves, soit 1 million sur 7. Pour préserver vos oreilles, ne mettez pas le son trop fort et limitez votre temps d'écoute.
Et nous passons maintenant le micro à Rosalie, Roman, Emma et Clarisse pour le portrait d'une collégienne.
Donc nous avons interviewé Mathilde, une élève de 4e du collège Guistot, atteinte de surdité, sur son quotidien et ses problèmes par rapport à ce sujet.
Bonjour, je m'appelle Mathilde Aran, je suis une élève de Guistot en 4e et je suis atteinte de surdité.
Peux-tu nous expliquer ce que tu as exactement ?
Donc depuis la naissance, je suis atteinte d'une surdité. Donc à l'âge de 2 ans et demi, j'ai été appariée grâce à ma nourrice, c'est elle qui a découvert, entre guillemets.
Est-ce que tes appareils auditifs te dérangent au quotidien ?
Non, parce qu'ils sont très petits, j'arrive même parfois à les oublier, comme mes proches.
Est-ce que tu dois les changer souvent ? Cela coûte cher ?
Je dois les changer environ une fois par semaine. Et donc le prix est compris dans les appareils, donc oui, c'est un peu cher, oui.
Comment les gens réagissent face à ton problème ? Te traitent-ils différemment ? Ce sujet est-il tabou ?
Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes atteintes de surdité qui pourraient être traitées différemment, mais moi, ça n'a jamais été mon cas. J'ai jamais été atteinte de difficultés avec les camarades, avec les autres gens dans mon quotidien.
Peux-tu écouter de la musique avec des écouteurs ? Est-ce problématique ?
Alors oui, je peux écouter avec un casque et mes appareils. Par contre, avec des écouteurs, je peux aussi écouter, mais je suis obligée d'enlever mes appareils auditifs.
Est-ce problématique pour le collège ?
Non. Enfin, quand j'étais petite, j'étais obligée de me mettre au devant de la classe, enfin, vers les premiers rangs, pour pouvoir mieux entendre le professeur. Et vu que j'ai été appareillée plus tard, le langage, je l'ai connu plus tard, j'ai appris à parler plus tard. Et il y a donc certains mots, j'ai eu des difficultés à les apprendre et tout, mais sinon, dans mon quotidien, non.
Ton problème peut-il s'aggraver ?
Non, ben pas ce que je sache. Moi, ça s'est même, au fur et à mesure des années, amélioré.
Merci beaucoup, Mathilde.
Merci à vous.
Vous êtes bien sur JetFM 91.2. C'était l'interview de Mathilde Aran, élève du collège Guistot, sur sa surdité. Je passe maintenant le micro à Colombe, Alix et Roman, qui ont rencontré un réalisateur.
Merci Clarisse.
Nous allons vous présenter l'interview de Mathieu Hag, professeur dans la section DMA des classes préparatoires du lycée Guistot. C'est un réalisateur nantais, il nous a parlé de son parcours et a répondu à nos questions sur la thématique « Les risques auditifs, comment mieux écouter ?»
On se retrouve après l'interview.
Bonjour, je m'appelle Mathieu Hag, j'interviens au lycée Guistot pour donner des cours de cinéma. Et par ailleurs, je suis moi-même cinéaste, c'est-à-dire que je tourne des films.
Pourquoi en êtes-vous venu à faire du cinéma ?
Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que moi, j'ai fait des études de physique. Et donc, j'ai fait des études qui m'ont conduit à étudier beaucoup l'image et à étudier beaucoup le son. Et à un moment, je me suis posé la question de savoir comment on pouvait créer une émotion chez quelqu'un, juste en regardant un film. Parfois, on arrive au cinéma, on a tous des soucis, on pense à une mauvaise note qu'on a eue, on pense à une dispute qu'on a eue avec quelqu'un qui nous a pris la tête. Puis hop, on arrive au cinéma et tous, on se retrouve dans un lieu noir et on se met à tous ressentir plein de choses. Et ça, ça m'a intéressé de comprendre comment est-ce qu'on arrivait à émouvoir les gens.
De quoi parle le film « L'orphelinat » ?
Je vois que vous êtes bien renseigné. L'Orphelinat, c'est un film que je suis parti tourner au Vietnam, dans la capitale du Vietnam, à Hanoï. Et je me suis donc retrouvé au cœur d'un orphelinat où il y avait 30 enfants à poser des questions et à me poser des questions sur ce que c'est qu'être orphelin, sur ce que c'est qu'être... adoptant d'un orphelin sur ce que c'est qu'une famille. Donc j'ai interviewé avec mon équipe, hein, un caméraman, un ingénieur du son. J'ai interviewé le directeur, les enfants. Et puis ensuite, j'ai fabriqué le film à partir des rushs que j'ai ramenés en France.
Connaissez-vous des films ou êtes-vous inspiré de films évoquant la surdité ?
Alors, évidemment, tout ce qui concerne l'image et tout ce qui concerne le son a toujours intéressé les cinéastes. Se poser la question, puisqu'il s'agit toujours d'émotions et de ressentis, de, par exemple, comment un aveugle perçoit le monde, même au cinéma, ça a toujours intéressé les gens. Et par ailleurs, la question du son, la question de ce qu'un malentendant peut percevoir, ça a aussi toujours interpellé les gens. C'est extrêmement intéressant parce que un film, en fait, même quand on fait un film sur quelqu'un qui est sourd, bah, la personne qui fait le film, elle n'est pas sourde. Donc ça veut dire qu'on doit toujours se poser la question de ce que pourrait ressentir l'autre. Il y a toujours un prisme, en fait. La réalité, elle n'est jamais vraie au cinéma. Elle est toujours transformée par celui qu'on appelle le réalisateur.
Quelle est la législation du son dans un lieu de tournage ?
Alors, dans un lieu de tournage, il n'y a pas de législation. Si on tourne dans une usine de métallurgie, ben, il faudra bien que... les gens puissent se parler entre eux et il faut bien aller saisir, quand on est en documentaire, la réalité telle qu'elle est. Donc il faut faire attention. Je pense que c'est important de s'écouter sans faire de jeu de mots parce que j'ai l'impression que le corps humain, il nous donne des indices. Quand on en a marre, il y a un moment, on se met à se boucher les oreilles, on se met à changer de place, on se met à pas être bien. Et je pense que dans ces cas-là, bah, il faut couper le tournage, quelques minutes, que tout le monde aille dehors, se repose, qu'on boive un coup, et puis après on peut repartir.
Mais du coup, c'est rare les acouphènes dus à des tournages par exemple ?
Alors quand on est en fiction, ce qui est génial c'est qu'en tournage, c'est un silence complet. On n'entend rien, personne n'a le droit de parler, on ne peut même pas faire craquer un genou, on ne peut même pas rien, même pas un téléphone, même pas un vibreur, rien du tout. Donc ça c'est pour la fiction, où on maîtrise absolument tout. Ensuite, quand on est en documentaire, ben, on est lié au problème de ce qu'on est en train de filmer. Moi, j'ai fait un film un jour d'une commande pour un concours de tuning qui consiste à faire le plus haut volume sonore avec un autoradio. Et dans ce cas-là, ben, évidemment, le cinéaste, enfin l'équipe de tournage, est soumise au même problème que tous ces gens qui font du tuning.
Avez-vous des projets de futurs films ?
Alors, figure-toi que mon prochain projet, c'est un documentaire sonore. Hein, tu vois, c'est drôle que nos routes se croisent là, parce que je trouve que le son, c'est un vecteur d'émotion qui est presque plus fort que l'image. Donc j'ai eu envie d'expérimenter un documentaire sonore qui racontera un périple que j'ai fait de Nantes jusqu'à la frontière de l'Ukraine, en Slovaquie, où je me suis posé la question de savoir pourquoi on part de chez soi. Je suis retourné dans le village natal de ma grand-mère, qui a quitté son pays pour venir en France. Dieu merci, grâce à ça je suis là aujourd'hui. Elle a rencontré mon grand-père. Et tous les gens que j'ai croisés en stop, tous les automobilistes qui m'ont pris en stop, je leur ai posé la question de pourquoi on part de chez soi, qu'est-ce qui nous pousse à quitter. Et donc j'ai ramené 15 heures de rush, donc 15 heures de son, que je suis en train de monter pour essayer de répondre à la question et de comprendre ce qui a poussé ma grand-mère à partir de chez elle au siècle dernier.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous êtes bien sur JTFM 91.2.
C'était l'interview de Mathieu Hag. Cette rencontre nous a permis de mieux nous informer sur les risques auditifs ainsi qu'entrevoir le milieu du cinéma. Nous remercions Mathieu Hag du temps qu'il nous a accordé et de la clarté de ses réponses.
Nous passons désormais la parole à Vittorio.
Maintenant se conclut notre émission. On espère que cela vous a plu et qu'elle vous permettra de faire plus attention à vos oreilles. Nous voudrions remercier notre truculente professeure de français, Madame Merson, Laure Rodier qui nous a aidés à réaliser notre projet et la radio JTFM qui nous a accueillis dans leurs locaux. On remercie aussi Olivier Magret, Olivier Joly, Mathilde et Mathieu Hag de nous avoir accordé des interviews. La classe de 4e B du Collège Gusteau pour sa super participation au projet.
Et n'oubliez pas, fais attention à tes oreilles, tu n'en as que deux.
Retrouvez toutes les réalisations du Sonolab sur www.sonolab.fr ou sur le site de JetFM www.jetfm.fr ou encore en direct tous les mercredis et dimanches à 11h sur le 91.2.